Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bonjour et bienvenue dans notre émission Au fil des pages, une émission qui est aujourd'hui consacrée à la revue trimestrielle de l'Atelier du roman, édité chez Flammarion. Lakis Proguidis, qui nous fait par ailleurs le plaisir de venir ici dans nos studios à Canal Académie, présenter l'un des numéros consacrés à l'écrivain et académicien Henri de Monterland. Lakis Proguidis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur et directeur de la revue littéraire trimestrielle L'Atelier du roman que vous avez créée en 1993. C'est une revue de critique et de réflexion sur les grands romanciers et les œuvres qui ont marqué l'histoire du roman. Alors la première question que l'on se pose est la suivante. Pourquoi avoir choisi de publier une telle revue ? À qui s'adresse-t-elle et comment choisissez-vous le romancier que vous présentez dans un numéro ?
Je commence par la fin. C'est par le divin hasard. C'est comme ça que ça se fait la littérature en général. C'est-à-dire, je suis assez suspect envers les programmes, les programmations. Ça a un aspect toujours d'actualité et de tout ce que les médias font. La revue littéraire, c'est un espace de liberté. Et la liberté sans le hasard n'existe pas. Nous vivons dans un monde où il faut programmer les rentrées, le succès, le best-seller, tout est programmé. La revue littéraire doit jouer un autre rôle, à l'opposé de cette programmation, justement. Donc, au départ, c'était ça, faire une revue littéraire pour sortir un peu de ces, disons, directives que le monde nous donne. Et depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis bientôt 16 ans, nous avons réussi à préserver cet espace de liberté et du hasard. Donc, nous choisissons les auteurs qui nous plaisent, qu'il faut chercher pour les mettre en valeur, pour rappeler au public qu'il ne faut pas les oublier, que ce sont les auteurs qui ont marqué notre patrimoine littéraire, qu'il ne faut pas que ça passe avec le temps et avec l'enseignement. C'est qu'il y a des valeurs auxquelles il faut revenir constamment. Sinon, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'histoire d'art. Voilà, je ne peux pas répondre, disons, pourquoi tel auteur a tel moment, parce que c'est un foyer, l'Atelier du roman. Quoiqu'il n'y a pas de comité de lecture, il n'y a pas un directoire, mais il y a tant de métiers, tant de rencontres, et le sujet s'impose au fil de ces rencontres, au fil de la vie de la revue. Vous voyez donc qu'il y a à un moment Monterland, mais à un autre moment il y a Musil, et à un autre moment il y a Italo Svevo, à un autre moment un autre académicien, Michel Deon. Vous voyez, donc, c'est assez large, le choix. Et ce n'est pas une école esthétique. Nous n'avons pas de limitations, disons, de goût d'un certain groupe, parce que la revue littéraire, traditionnellement, se faisait toujours autour des groupes d'un certain goût. Et c'est justement à l'opposé de cette interprétation du rôle de la revue. C'est assez ouvert vers toutes les tendances et surtout vers le passé.
Et donc justement, auprès de qui cette revue s'adresse-t-elle pour un public large ou plutôt pour des gens initiés ?
Ce qui est étonnant avec l'Atelier du roman, c'est que, d'après moi, c'est la seule revue qui a pris cette distance de l'université et du monde journalistique. Parce qu'au fait, il n'y a que deux endroits où s'exerce la critique littéraire, n'est-ce pas ? Dans la classe universitaire, évidemment, avec le jargon et cette prétention de spécialiste à tout expliquer, sauf l'art, et le journalisme qui court derrière le marché. Donc entre les deux, là c'est vraiment les deux mondes auxquels il faut échapper. Il faut prendre la distance par rapport à ces deux endroits de la critique littéraire. Et donc il fallait retrouver un langage humain. Je l'appelle humain parce que c'est le seul langage qui est valable. Ne pas faire du jargon et ne pas faire de l'éphémère journalistique. C'est-à-dire entre les deux, essayer de capturer, de séduire les lecteurs, comme l'écrivain sait le faire. Il faut Il faut parler au lecteur avec ses mots. Il faut être simple, affronter des sujets difficiles. Le public n'est pas bête par principe. On ne peut pas le traiter comme des idiots. Le public est exigeant. Donc la revue s'adresse à tous les lecteurs des romans. Et on essaye de dire qu'il y a des bons romans et des mauvais romans. Il y a des critiques contre le roman qui ont fait un tabac, mais que nous trouvons nul, souvent, vous voyez.
Donc vous vous placez entre le journalisme et les universitaires, si j'ai bien compris.
Disons que ce n'est pas la moyenne, ce n'est pas entre les deux dans le sens où il y a un milieu. Non, c'est s'éloigner des deux à la fois.
Alors pourquoi avoir titré cette revue « L'atelier du roman » ?
Parce que nous avons souffert beaucoup de la théorie. Depuis les années 60, disons fin des années 50. Pas seulement en France, peut-être la France a donné l'exemple de cette théorisation, de cette sur-théorisation. Ce qui a comme résultat immédiat, vraiment palpable, les éditeurs refusent les essais littéraires. C'est-à-dire, justement, ce qui fait l'honneur à l'art, c'est le commentaire intelligent. Pendant des décennies, les auteurs, les essayistes, publiaient des œuvres pour accompagner la création artistique, la gestation artistique. Il n'y aurait pas de Joyce s'il n'y avait pas de commentaires sur Joyce. Donc, il fallait échapper à cette tendance vers cet esprit d'amener la littérature dans un espace clos et rendre la chose littéraire le bonheur de happy few. C'était le contraire. Il fallait parler avec les gens. Donc, atelier signifie que, si vous voulez, la critique littéraire, c'est un foyer visitable. Chacun peut entrer dans un atelier de peintre, n'est-ce pas? Le peintre peut recevoir ses amis, avoir leur tableau. C'est le côté pratique qui nous manquait. Et c'est par ce côté que nous avons quand même eu l'occasion ou le bonheur d'avoir parmi nos collaborateurs des grands écrivains. Parce qu'ils ont estimé, ils ont compris que ce travail de pratique, loin de la théorisation, c'était en même temps leur jeu, leur propre jeu. Donc il y a, par Kundera ou Michel Déon, il y a des étrangers, parmi les 400 écrivains jusqu'à aujourd'hui qui ont écrit, plus que la moitié sont des romanciers, des grands romanciers du monde entier. De Saramago à Ernesto Sabato ou à Rushdie, vous voyez, ce sont des écrivains qui ont compris le défi, l'enjeu et la chance qui présente pour les romans cette revue.
Alors justement, on voit que vous ne vous limitez pas seulement aux écrivains français pour faire la critique d'un romancier. Vous faites également appel à des écrivains du monde entier. On peut citer par exemple Milan Kundera, comme vous le disiez, José Saramago, pour ne citer qu'eux, ou encore Michel Houellebecq, Jean Lévy, Patrick Rambaud. Vous êtes vous-même grec. Comment avez-vous fait appel à tous ces écrivains? Est-ce vous qui les avez sollicités? Comment cela s'est-il passé concrètement?
Disons, c'est par les amis. C'est-à-dire, il y a les anciens de l'atelier, disons, une petite pléiade, des gens qui ont à peu près mon âge. Nous avons suivi à un moment, avec la plupart d'eux, le séminaire de Milan Kundera. Il tenait un séminaire à l'école des hautes études, dans les années 80. Mon idée était de faire sortir, en dehors de la classe, le message de Kundera, qu'il y a un art dont il fallait s'occuper, l'art du roman. Et ce foyer, ce premier foyer, je vous dis 5-6 amis, qui est permanent, sont maintenant devenus des chroniqueurs. C'est un Polonais, un Italien, deux Québécois, il y a aussi des Espagnols, un Espagnol, qui faisaient partie du séminaire, sont devenus maintenant des membres permanents, les chroniqueurs de cette revue. Et par ce réseau, par ce premier réseau, on a eu accès à tous les écrivains qui sont valables dans le monde entier. Et nous sommes allés même à Tokyo pour rencontrer Kenzaburo Oe. Il y a un numéro consacré à Kenzaburo Oe, c'est le prix Nobel 94, oui. Et il nous a accueillis, on a parlé avec lui pendant une journée entière. C'était pareil avec Günter Grass. Nous sommes allés au nord de l'Allemagne. Nous avons passé un après-midi avec lui pour faire un grand entretien. Donc il y a des grands entretiens avec les romanciers du monde entier.
Alors, est-ce que les écrivains sont toujours choisis en fonction de l'affinité qu'ils ont avec l'auteur que vous présentez dans une revue ?
Plus ou moins oui. Plus ou moins oui. C'est-à-dire, le sujet est souvent annoncé. C'est-à-dire qu'on va parler de tel romancier ou de tel roman. Parce que parfois, nous choisissons un seul roman. Nous avons fait, par exemple, avec Le Hussard sur le toit de Giono. Nous l'avons pris seulement ce roman et nous avons fait appel à plusieurs romanciers pour écrire sur le même roman. C'est un exercice, vous voyez, l'atelier a plusieurs faces. Ce n'est pas seulement une critique littéraire d'un auteur, mais c'est, on diversifie assez souvent l'approche. Et c'est de bouche à l'oreille qu'on prépare. Maintenant, je suis dans la préparation du 5e numéro en prenant la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis déjà dans le numéro qui va paraître dans un an et demi à peu près. Et il y a des discussions. Il y a des amis qui nous recommandent à d'autres amis. Et c'est ce réseau qui n'a rien à faire. Je reviens toujours avec cette idée de perturber l'idée de la programmation absolue. C'est-à-dire laisser au hasard quand même une grande part. Et c'est comme ça qu'on arrive à boucler un numéro. Parfois, il y a des oubliés qu'il fallait les faire intervenir dans un numéro. Mais on n'oublie pas, dans deux ou trois numéros plus tard, on publie un article sur l'auteur à qui on a consacré un numéro précédent. Parce que ce n'est pas des dossiers universitaires qu'on fait, ce ne sont pas des dossiers exhaustifs, c'est juste pour susciter la curiosité du lecteur. Donc on peut revenir, et on revient souvent à nos auteurs.
Chaque numéro de l'atelier du roman est illustré de dessins humoristiques réalisés par Jean-Jacques Sempé. Pourquoi avoir voulu mélanger humour et roman ? Et pensez-vous que les deux genres sont indissociables et qu'ils sont complémentaires ?
C'est justement ça, c'est, si vous voulez, s'il y a un choix esthétique de cette revue, c'est celui-là, que le roman est inséparable de l'humour, de l'ironie, de la distance ironique. Moi, je suis en même temps essayiste, j'ai écrit quelques essais sur le roman, mais actuellement, disons, depuis quelques années, je suis en train de rédiger un essai sur Rabelais. Et comme je le considère comme le grand fondateur du roman, vous voyez qu'elle est à peu près, disons, la couleur de cette revue dont le directeur consacre son temps à Rabelais. Je crois que tout est là. Et quand Jean-Jacques Sempé, qui est un ami personnel, m'a proposé d'illustrer la revue, parce qu'il illustre la revue gratuitement, par amitié, je sautais de joie. Je dis, voilà, on va associer maintenant l'image avec l'essence. C'est-à-dire, on aura quand même l'humour par un grand humoriste, peut-être, d'après moi, un des plus grands humoristes du monde entier.
Alors revenons sur ce numéro consacré à Henri de Monterland. Henri de Monterland, dont on rappelle les dates 1895-1972, élu à l'Académie française en mars 1960. Pourquoi avoir choisi Henri de Monterland ? Pourquoi un académicien ?
Il y avait un académicien, un précédent, n'est-ce pas, avec Michel Déon.
Oui, tout à fait.
Nous avons fait un numéro.
Oui, mais justement, pourquoi prendre certains académiciens ?
Nous n'avons pas des a priori, mais l'Académie a accueilli plusieurs fois, elle a donné des prix à nos auteurs, aux écrivains de l'atelier, même a encouragé des jeunes, des très jeunes qui ont écrit pour la première fois dans l'atelier, ils ont eu des prix ici, de l'Académie française. Concernant son souci principal de la langue, nous la considérons comme un allié de force, l'Académie française, parce que aussi l'atelier de roman s'intéresse à la francophonie. Nous faisons une campagne pour les Français dans le monde entier. C'est une revue francophone quand même, quoique la moitié des écrivains ne sont pas français, mais notre œuvre est en faveur de la francophonie. Donc, vous voyez, il y a une alliance profonde avec l'Académie. Mais ceci dit, le choix n'est pas de Monterland, n'est pas fait parce qu'il est académicien, mais parce qu'il est un grand écrivain du siècle et dans le monde entier. Nous trouvons un peu juste quand même qu'il est mal connu en dehors des frontières françaises. C'est pour ça qu'une revue existe, c'est pour faire un peu connaître nos gloires nationales. Mais il faut travailler. Et nous ne l'oublierons pas, il y aura encore, parce que nous avons déjà dans nos archives, des articles sur Monterland et nous continuerons à le défendre.
Peu de temps avant son entrée à la coupole, François Mauriac disait de Monterland, et je le cite, « C'est pour moi un écrivain, le type même de l'écrivain français d'une certaine famille telle que Chateaubriand et Barrès, à laquelle je me flatte d'appartenir aussi avec d'anciennes et solides alliances du côté de Port-Royal. J'y suis moi-même demeurée fidèle, alors que Monterland, qui a toujours joué les libertins, y a cherché des sujets de pièces mais non des principes de vie. Il n'empêche que nous sommes des frères. Vous qui en avez fait sa critique, ainsi que les autres écrivains du numéro, êtes-vous d'accord avec la description que François Mauriac en a faite ?
Écoutez ça, non, je trouve ce jugement légèrement franco-français. Et comme j'aspire toujours à une littérature ou à un roman cosmopolite, je trouve qu'on endommage l'auteur si on le compare seulement avec les autres auteurs du même pays. Moi, quoique ça peut paraître vraiment, vraiment extravagant, je mettrais à côté de Monterland Chesterton et Dostoïevski, un Anglais et un Russe. Et je crois que c'est justement par cette provocation qu'on peut faire penser le lecteur qu'il y a à regarder vers d'autres directions, qui est, disons, la littérature nationale, la littérature restreinte et référencée par ses propres auteurs et son propre histoire.
C'est un petit peu curieux parce que vous avez mis 7 ans avant de faire paraître ce numéro sur Henri de Monterland. Pourquoi lui avoir consacré autant de temps ?
Disons, le premier auteur qui nous a parlé, parce que là je raconte un peu dans l'ouverture comment ça se passait, c'est Dominique Noguez, qui a insisté pendant une soirée, parce que nous faisons quand même des soirées d'amis, boire, manger, fumer. Et il disait, à une heure avancée de la nuit, il disait, mais Monterland, quand on va faire Monterland ? Je dis, ben, d'accord, on va le faire, mais il faut nous préparer, il faut le lire, il faut le relire. Et je crois que c'est un temps de maturation. C'est pareil pour tous les auteurs. Quand on dit on va faire un numéro, disons, le temps minimal, c'est 4-5 ans. Nous parlons entre nous. Pas pour distribuer des rôles, mais pour vivre avec l'auteur. Et après, il y a des articles, mais il n'y a aucun dirigisme. Il n'y a pas de partage des rôles, il n'y a pas de réunion, on ne vote rien, jamais. Ce sont des libres discussions et les résultats, oui, ça prend du temps. C'est un atelier, on travaille.
Tout à fait, mais Henri de Monterland, vous avez quand même mis 7 ans.
7 ans,
comparé
oui.
Aux autres vues.
Il y a aussi des numéros qui s'intercalent par une autre nécessité. Rien n'est programmé strictement. Je disais au départ que le programme, c'est un peu au hasard. Oui, c'est vrai, ça a pris 7 ans de réflexion.
Eh bien, merci Lakis Progidis pour être venu nous présenter ce numéro de la revue trimestrielle de l'Atelier du roman consacré à l'écrivain et académicien Henri de Monterland. Je rappelle qu'il se trouve aux éditions Flammarion. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission Au fil des pages.